Bonjour à tous. Alors, comme notre frère a dit au tout début de sa présidence, vous commencez à me connaître, mais je dois dire aussi que je commence à vous connaître. Alors, je me sens vraiment à l'aise quand je viens vous visiter. Je veux remercier les membres du conseil de m'avoir invité encore une fois. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des frères et sœurs qui partagent la même foi, le même Seigneur, la même espérance. Si jamais on ne se revoit pas après aujourd'hui, bien, une chose de sûre, on va se revoir pour l'éternité dans le ciel. Amen.
Amen.
Amen. Je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17. C'est un message en le préparant, en le travaillant, qui m'a vraiment édifié. J'espère que ça va vous édifier, vous fortifier, vous encourager. Quels sont ceux qui m'entendent pour la première fois? Je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Voilà. Ouais. Je tiens à m'excuser, on vient au monde avec cet accent-là, donc apparemment que ça ne s'opère pas, voilà. Ce qui est bien, on parlait avec notre frère juste avant de prendre la chair et la place, prendre place, et on parlait vu que bon, je suis baptiste de formation. Et vous savez que c'est une bonne, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. On est fait maintenant partie des APEB depuis quelques semaines. Et on se parlait ensemble, il me disait, tu sais, finalement, les différentes églises, on se ressemble beaucoup. Hein. Et c'est vrai qu'il y a à peu près juste la couleur du carrelage qui change, sinon le reste, c'est la même chose. Quand on prêche l'Évangile, c'est le même Évangile et on n'a pas à se compliquer la vie. On cite les Écritures et c'est merveilleux. Alors voilà, j'ai 70 ans, j'ai besoin de lunettes maintenant. Je vais les porter. Je vous invite à lire à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Maître Jésus, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi et va. » Ta foi t'a sauvé. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce de ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir dans ce lieu ce matin, Seigneur, avec cette liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ de pouvoir partager, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, cette parole que nous avons reçue un jour qui a bouleversé, transformé nos vies et qui nous a donné, Seigneur, non seulement le pardon de nos péchés, mais, Seigneur, aussi l'espérance de la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ta résurrection, parce que tu nous rappelles aussi que de la même manière que le Père t'a ramené de la mort à la vie, de la même manière aussi que tu nous ramèneras un jour de la mort à la vie. Seigneur, merci pour avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir donné une famille, une sainte famille, Seigneur, qui est là pour louer le Dieu trois fois saint, pour le faire connaître aux hommes, et aussi, Seigneur, pour partager notre joie et notre paix envers ceux et celles qui ne te connaissent pas. Seigneur, ce matin, nous voulons que l'homme s'efface devant ta parole et que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cette salle, Seigneur, et parle à nos cœurs. Tu connais exactement, Seigneur, nos besoins. Seigneur, tu peux venir dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas avoir, Seigneur, ce dont nous avons besoin ce matin. Mais nous sommes convaincus d'une chose, Seigneur, personne ne s'est déplacé pour rien. Parce que ce rendez-vous, Seigneur, tu l'avais donné pour chacun de nous depuis toute éternité. Et tu veux nous donner une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole d'exhortation, d'encouragement. Mais à travers tout cela, Seigneur, nous voulons surtout, Seigneur, que nous rappeler que tu veux te glorifier. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Comment pouvons-nous manifester un esprit de reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous? Comment pouvons-nous savoir si vous êtes quelqu'un de reconnaissant envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et continue à faire dans votre propre vie? Il y a 4 choses que vous êtes supposé voir dans votre vie afin de savoir si vous êtes quelqu'un de vraiment reconnaissant. Vous devez d'abord, les versets 11 à 13 que nous avons lus, vous devez d'abord avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Une rencontre qui bouleverse la vie. Quand on rencontre Jésus-Christ, c'est une rencontre qui bouleverse notre vie. Le jour où on a rencontré nos femmes, le jour où on a rencontré nos maris, c'est censé être une journée qui a bouleversé notre vie. Mais ça ne remplacera jamais, jamais la journée où on a rencontré Jésus-Christ. Parce que la journée où on a rencontré Jésus-Christ, on est passé de la mort à la vie. On est devenu des enfants de Dieu et ça change complètement notre vie. On a une autre vision de la vie. La mort, ce n'est pas la fin de tout pour nous, c'est le début d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et pour être en mesure de vivre une vie chrétienne animée d'un esprit rempli de reconnaissance envers le Seigneur, vous devez d'abord avoir réalisé que cette rencontre avec Jésus a changé votre vie. Et sans rentrer dans les détails, simplement faire un retour sur vous-même et vous dire, rappelez-vous la journée que vous vous êtes converti, que vous avez fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler nécessairement de la date, mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? C'est une bonne question à se poser, ça. Quand on rencontre notre mari, on est tout feu, tout flamme, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Nos parents ne nous reconnaissent plus, quoi. Ils disent, qu'est-ce qui se passe, ma fille? On voudrait leur cacher qu'on fréquente quelqu'un. Il n'y a pas moyen, hein? On rentre à la maison. Ils disent, qu'est-ce qui se passe, garçon? Je ne te reconnais plus. Ouais. C'est qu'il y a quelqu'un qui a pris la place de nos parents dans notre cœur. Et ça, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, ou je suis trop émotif ou trop sentimental, mais il y a des brillants dans nos yeux, hein? Ouais. On dort le soir et puis on rêve à elle, hein? Ah, et la femme de ma vie. Même ma mère, lors de mon premier amour, elle m'avait dit, ça, c'est pas ta femme qui est pour toi. Je lui ai dit, voyons donc, maman, voyons donc. Tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais sorti, toi. Mon œil, hein, j'en ai souffert de cette fille-là. Hein. Heureusement que je ne l'ai pas mariée, mais j'en ai souffert. Hein. Ouais. Ma mère connaissait bien le cœur de... Le cœur, elle n'était pas tellement instruite, elle avait fait une deuxième primaire. Mais quelle sagesse cette femme avait dans son cœur. Quelle sagesse, quoi. Ouais. Quelle sagesse. Genre, gloire à Dieu pour la mère qui m'a donné. Elle m'a sauvé de beaucoup de pétrins, quoi. Je suis l'aîné de 8 enfants et elle a dû négliger l'éducation des sept autres pour réussir à me contrôler, à me suivre partout parce que j'étais vraiment un vrai survenir, quelqu'un qui voulait faire à sa tête. Et je me voyais déjà le nombril du monde à 5 ans. Alors, j'ai fait ma première fugue à 5 ans. Les policiers sont venus me reconduire chez moi. J'avais 5 ans. Alors, ça promettait, n'est-ce pas? Et ma mère a vraiment sacrifié sa vie pour moi et je rends gloire à Dieu pour cette mère que le Seigneur m'a donnée. Et j'ai eu la gloire et j'ai eu le plaisir et le privilège de pouvoir l'amener à Christ quelques semaines avant son décès et je rends gloire à Dieu pour cela. Dieu est bon, Dieu est grand et il n'y a pas personne que Dieu aime plus qu'un autre. Dieu nous aime tous de façon égale. C'est une grande consolation pour nous ce matin, ça. Dieu ne vous aime pas plus que moi et... C'est bien de savoir ça, non? C'est bien, hein? Oui. Dieu nous aime tous de manière égale. Je pense que je l'ai déjà dit ici, mais c'est bien qu'on le répète. Quand on fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu ne nous aime pas moins. Dieu est simplement triste de voir que son enfant ne marche pas dans ses voies. Et quand nous obéissons au Seigneur, Dieu ne nous aime pas plus, mais il est dans la joie de voir que son enfant marche dans la lumière, dans la vérité. L'amour de Dieu est invariable. Le nôtre peut bouger, peut changer en fonction des visages, en fonction de ce que les gens peuvent nous faire ou ne pas nous faire. Mais l'amour de Dieu ne nous change, l'amour de Dieu ne change pas. Et ça, c'est une bénédiction pour nous aussi. Et il dit à un de ses prophètes dans Jérémie, il dit, « Je t'aime d'un amour éternel. Cet amour ne changera jamais. » Alors, on n'a pas à avoir peur lorsqu'on comparaîtra devant Dieu ou quand on passera l'éternité avec lui qui nous dira, « Écoute, j'ai regardé ton dossier, puis finalement, ce n'est pas fameux ce que tu as vécu. Tu as vécu plus de mauvais moments. » que de bons moments avec moi. On n'a pas à craindre ça parce que l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu est éternel. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et on mérite de le louer. On mérite de développer cet esprit de reconnaissance envers le Seigneur parce qu'il y a une très belle leçon ici à apprendre, à tirer dans ce passage. Les 9 autres lépreux faisaient partie du peuple de Dieu. On n'a pas pensé une seule seconde de rendre grâce à Jésus de l'avoir guéri. Le Samaritain que les membres du peuple de Dieu détestaient, était le seul qui a pensé à venir rendre gloire à Jésus pour le miracle qu'il avait accompli dans sa vie. Et on va voir ce Samaritain pour quelle raison ce Samaritain a cru bon de rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Jésus-Christ pour le miracle qu'il avait accompli. Rappelez-vous, pour autant que nous sachions, ces 10 lépreux n'avaient jamais rencontré ni vu Jésus auparavant, mais qu'ils avaient sûrement entendu parler de lui, parce que le jour où ils l'ont rencontré, cela faisait déjà un certain temps que Jésus que Jésus accomplissait des miracles et qu'il enseignait les foules venues l'écouter. Et sa renommée, sa réputation l'avaient déjà précédé, et nul doute que tout le monde avait entendu parler de cet homme appelé Jésus-Christ. Et nous lisons dans les versets, je vais... excusez-moi, prendre une gorgée d'eau. Nous allons lire encore une fois les versets 11 à 13. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient pu utiliser toutes sortes de mots pour s'adresser à Jésus, mais les deux mots qu'ils vont employer, c'est « Jésus, Maître ». Et le mot « Maître » ici, qu'ils ont employé pour s'adresser à Jésus, est plutôt quelque chose d'inhabituel venant de la bouche de gens qui ne fréquentaient pas Jésus-Christ. Concernant ce mot, il y a trois choses à retenir et à remarquer ici. Premièrement, le mot « maître », c'est un mot que nous retrouvons seulement dans l'Évangile de Luc. On ne le retrouve pas dans les trois autres Évangiles. Deuxièmement, c'est la seule fois où quelqu'un qui n'est pas un disciple de Jésus-Christ va l'appeler « maître ». Et troisièmement, et ça c'est intéressant, le mot « maître » signifie en grec littéralement « commandant en chef ». Autrement dit, lorsque vous appelez quelqu'un « maître », vous étiez en train de lui dire « vous avez l'autorité qui vous donne le pouvoir de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire ». Et c'était donc un mot que vous n'auriez pas utilisé par hasard pour vous adresser à quelqu'un. Cela signifie que lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont été absolument convaincus qu'il était le commandant en chef, c'est-à-dire qu'il avait l'autorité sur leur maladie, qu'il avait l'autorité sur la mort, qu'il avait l'autorité sur leur vie. On se rappelle que si on recule un petit peu plus en arrière, ils avaient sûrement entendu parler qu'il avait un jour ressuscité la fille de Jairus. Il avait sûrement entendu parler aussi que la femme qui avait des hémorragies depuis 12 ans, quand elle a touché le manteau de Jésus, le corps de Jésus, et bien qu'elle avait été, le vêtement de Jésus, pardon, et bien qu'elle avait été guérie. Écoutez, ça devait circuler, ça. Quelqu'un qui ressuscite les morts, ça devait circuler. Alors, c'était donc un mot que vous n'utilisiez pas par hasard. Et en l'appelant maître, il reconnaissait donc qu'il avait une autorité que personne d'autre avait vraiment. En fait, il savait au plus profond d'eux-mêmes que Jésus n'était pas simplement le seul sur qui il pouvait compter pour être guéri, mais le seul capable de les libérer de cette terrible maladie. Et au moment où ces 10 hommes vont être guéris, personne n'avait besoin de leur dire qui avait fait ce miracle. Ils savaient que c'était Dieu qui avait fait ce miracle, comme nous le savons nous aussi que c'est Dieu qui nous maintient en santé, que c'est Dieu qui nous maintient en vie et qui pourvoit nos besoins et qui répond à nos prières. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen, non? Amen, oui. La question que nous devrions nous poser à la lumière de la démonstration de grâce que nous sommes sur le point de lire, frères et sœurs, c'est la suivante. Pouvons-nous dire à chaque jour de notre vie, ou dire qu'à chaque jour de notre vie, nous considérons Jésus comme étant non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre maître? C'est intéressant, n'est-ce pas? Il est très facile d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Dans des églises où on fait des appels, qui veut accepter Jésus-Christ comme sauveur? Moi, je peux sortir un pistolet ce matin et dire « Celui qui ne lève pas les mains, je vais le tirer. » Tout le monde va lever les mains. Et de l'accepter comme un maître, il y a des chrétiens que ça leur prend une vie complète pour lui laisser la maîtrise de leur vie. Une vie complète. Et le Seigneur ne peut pas se glorifier à travers ses enfants tant et aussi longtemps qu'il n'est pas le maître de votre vie et de ma vie. Cet étranger va dire « Maître, Seigneur, Maître, c'est extraordinaire. » Frères et sœurs, chaque respiration que vous prenez est un don de Dieu et chaque battement de votre cœur est un cadeau de Dieu. Lorsque vous réalisez que l'espérance qui est la vôtre ce matin est le résultat de la bonté de Dieu, vous ne pouvez faire autrement que d'être reconnaissant envers le Seigneur. Puisque vous avez rencontré Jésus, que cette rencontre a réellement transformé votre vie, vous ne pourrez faire autrement que de le remercier jour après jour de vous être révélé dans votre vie. Frères et sœurs, combien de fois? Et cesse. Écoutez, quand je parle de vous, je parle de moi. Le premier à qui cette prédication s'adresse, c'est à moi. Des fois, je compose une prédication, puis je dis, « Ah, ça, je vais passer par-dessus. » Puis le Seigneur, il me dit, j'entends le Seigneur, il dit, « Non, non, ça, c'est pour toi, celle-là. Tu peux l'écrire. Hein? » Ouais. Le Seigneur, il parle d'abord à son serviteur. Hein? C'est important. C'est important, et le Seigneur me parle. Et c'est pas toujours facile, ce que Parce que le Seigneur, par son esprit, me demande de mettre par écrit. Parce que si, avant de vous parler, je ne me suis pas remis en question, je suis disqualifié pour vous partager la parole. Ça passe d'abord par le serviteur. Sinon, je suis un donneur de leçons. Hein. C'est tout. Hein. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Alors, je me remets en question avant de pouvoir réclamer la parole. Voilà, Jésus. Alors, premièrement, on doit d'abord rencontrer Jésus, cette rencontre qui nous fait passer par une nouvelle naissance, qui fait de nous une nouvelle personne. Je vous avais partagé, je pense, dans mon témoignage, si vous m'aviez connu il y a 35 ans, vous n'auriez jamais osé me parler tellement j'étais fou, tellement que je faisais à ma tête. Mais moi, je suis mort il y a 35 ans, vous comprenez? Je suis mort, moi. J'ai 70 ans maintenant, là, j'ai 35 ans de vie chrétienne. L'ancien Jean Cudon, qui voulait faire à sa tête, qui se servait des hommes pour arriver à leur fin, à sa fin, eh bien, c'est terminé. Là, c'est un nouveau Jean Cudon qui a rencontré une personne, Jésus-Christ, qui a transformé sa vie. Et plutôt maintenant que de se servir des autres pour arriver à ses fins, il sert les autres maintenant pour arriver aux fins de Dieu, c'est-à-dire amener les gens à se repentir et à se convertir pour voir leur péché pardonné. L'ancien Jean Cudon n'aurait jamais quitté le Québec pour venir annoncer l'Évangile en Belgique. C'est un appel de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il continue à faire dans ma vie. Non seulement on doit d'abord rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, mais deuxièmement, on doit lui rendre grâce. Versets 14 à 18, lisons ensemble. Versets 14 à 18, il est écrit au verset 14 que dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. Frères et sœurs, si ce passage était arrêté au verset 14, regardez bien ceux qui ont leur Bible. Hein. Une récompense pour vous ce matin si vous avez votre Bible. Regardez bien. Si ce passage était arrêté au verset 14, nous n'aurions pas pu voir au-delà de la guérison physique ce que ce miracle allait produire, parce que vous auriez lu ce passage en disant que ce miracle accompli par Jésus s'ajoutait aux nombreux autres miracles qu'il avait déjà accomplis dans le passé, et vous seriez passé à côté de quelque chose qui est tout de même très important ici. La plupart du temps, les évangiles nous rapportent que Jésus se déplaçait d'une ville à une autre, comme c'est au tout début, n'est-ce pas? Puis quelqu'un criait, on s'approchait de lui, il lui demandait s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Jésus intervenait. La personne avait été guérie, elle quittait les lieux après avoir été libérée. Mais si Luc avait terminé le récit de cette histoire au verset 14, vous vous seriez dit, ben, je ne suis pas surpris. C'est comme ça que ça se passait la plupart du temps. Et vous n'auriez pas pensé à l'ingratitude manifestée par la majorité de ceux qui ont été guéris dans ce passage si un des 10 n'était pas venu remercier Jésus pour ce qu'il venait faire de lui. Luc écrit au verset 15 que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Les 9 autres continuaient leur chemin, mais cet homme avait choisi de faire demi-tour en glorifiant Dieu à haute voix. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, il est bon de se rappeler que tous les mots qui s'y trouvent sont importants. Luc aurait pu se contenter d'écrire « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en louant Dieu et s'arrêter là. » Mais regardez ce qu'il rajoute. Pourquoi a-t-il cru important d'ajouter à haute voix? À haute voix. Frères et sœurs, rappelez-vous que Luc est médecin et que la plupart d'entre nous, ce que nous ne savons pas concernant la lèpre, c'est que cette maladie, et c'est presque toujours le cas, atteint les cordes vocales du malade. Et quand cela se produit, le larynx se ferme au point où, soit que vous ne pouvez plus parler, ou si vous le pouvez, vous parlez en ayant une voix rauque, pratiquement inaudible. Un peu comme quelqu'un qui a un cancer de la gorge. Vous savez qu'il y a un appareil là, ici, vous avez déjà vu, hein? Il met un appareil ici, il émet des sons. On a de la difficulté souvent à entendre parler quelqu'un qui porte cet appareil-là. Mais bon, il fait son possible pour qu'on puisse l'entendre. Mais là, ici, je n'en fais pas un dogme, mais j'essaie d'imaginer la scène. Quand ces 10 hommes ont été guéris, ce lépreux a regardé les 9 autres, il a probablement dit, « Hé, les amis, vous êtes-vous touchés? Vous êtes-vous touchés? Hé, les amis, c'est bizarre! » Et l'autre a sûrement pu lui dire, « Tiens, c'est bizarre, on t'entend maintenant parler. » J'essaie d'imaginer, hein? Il est possible que le Samaritain lui dise, « Non seulement je parle, mais je parle normalement comme j'avais toujours parlé auparavant avant d'avoir la lèpre. » Tout à coup, cet homme se dit en lui-même, « Je n'ai pas seulement été guéri à l'extérieur, mais je viens aussi d'être guéri à l'intérieur. » Rappelez-vous ce que Luc écrit. « L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, louant Dieu à haute voix. » Et j'ai essayé simplement de faire un petit peu l'exégèse du texte ce matin. Les deux mots grecs réunis ensemble que Luc utilise pour haute voix nous ont donné en français le mot mégaphone. Ça vous donne une idée, vous savez ce que c'est un mégaphone, hein? Ouais. C'est-à-dire que cet homme criait comme un mégaphone. Autrement dit, cela faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas entendu sa propre voix parce qu'il ne pouvait pas parler normalement, qu'il criait maintenant à plein poumon. Résultat, Luc écrit qu'il glorifiait Dieu à haute voix. Vous pouviez l'entendre louer le Seigneur à des centaines de mètres. Luc ajoute ensuite au verset 16 qu'il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce et il ajoute « c'était un Samaritain ». Nous ne savons pas tout ce qu'il a dit à Jésus à ce moment-là parce que Luc rapporte seulement deux mots, pour ceux qui ont leur Bible, hein, deux mots. Il le rendit grâce, il le remercia, il lui dit « Seigneur Jésus, merci beaucoup ». Frères et sœurs, si je viens vous voir que vous faites quelque chose pour moi, et que je vous remercie. Qu'allez-vous me répondre normalement? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Hey, quelqu'un veut oser? Oser s'ouvrir la bouche. Qu'est-ce que vous me répondriez? Je viens vous voir puis je fais quelque chose de bien pour vous. Qu'est-ce que vous me répondriez? OK. Ben, vous me dites bienvenue, non? Vous me répondriez bienvenue. Ou quelqu'un peut dire, je suis de rien. Ça se dit ici de rien. Bon, OK. Ben, c'est bon. Au Québec, on dit de rien. Voilà. Alors, on aurait pu penser que Jésus aurait répondu « Bienvenue à cet homme qui était revenu, pardon, sur ses pas pour le remercier. » Mais ce n'est pas ce que Jésus va faire. Ce n'est pas ce que Jésus va dire. Au lieu de cela, il va plutôt lui poser trois questions. Verset 17-18. Regardez les trois questions qu'il va leur poser. Les dix. N'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres? Deuxième question, où sont-ils? Troisième question, ne s'est-il pas trouvé parmi les dix que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Frères et sœurs, la question qu'on peut se poser, c'est que Dieu, dans sa Bible, il répond à des prières que des païens lui ont adressées, n'est-ce pas? Corneille, c'est un païen. La syrophénicienne, c'était une païenne. Le centurion qui envoie quelqu'un parce que son serviteur est malade, c'était un païen. C'est bizarre que Dieu répond parfois à des prières faites par les païens, et qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne reçoivent jamais de réponse à leurs prières. Parce que Dieu regarde au cœur, frères et sœurs. Pas nécessairement ce qui sort de notre bouche, mais Dieu regarde au cœur. Frères et sœurs, un Samaritain sur les dix, un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui était maudit par le peuple d'Israël parce qu'il y avait marié une non-juive. Dieu va répondre à sa prière parce que Dieu a regardé à son cœur, frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus essaie de nous faire comprendre ici? Si j'ai pris le temps de les guérir, ne pouvait-il pas au moins prendre le temps de me remercier? Si j'ai fait quelque chose de miraculeux pour eux, ne pouvait-il pas faire demi-tour et simplement venir me dire merci? Parce que je n'étais pas obligé de les guérir. C'est une grâce. Si les gens qui appartiennent à mon Église et qui sont sauvés parce qu'ils m'ont accepté, si ces gens, eh bien, étaient reconnaissants, ne pourraient-ils pas une fois de temps en temps se lever le matin et me dire, Seigneur, merci pour ton salut? Ne pourrait-il pas me dire, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, c'est une grâce en se levant le matin. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire jusqu'à quel point chacun de nous cadre bien dans cette histoire. Nous n'avons pas le choix, soit que vous vous identifiez à celui qui est revenu, ou soit que vous vous identifiez au neuf autres. Si vous pouvez dire, je m'identifie avec celui qui est revenu parce que je ne peux pas m'empêcher de revenir sur le passé, jour après jour, pour remercier Dieu. Remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée de l'avoir rencontré. Je rends grâce à Dieu jour après jour pour toutes les bénédictions qu'il m'accorde et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Frères et sœurs, on cherche tellement des fois à faire des belles phrases. J'entends des prières, hein, je ne vous dis pas ici, je me promène, mais j'entends des prières, elles sont tellement compliquées, je me demande même si Dieu est capable de les comprendre, quoi. C'est pas Dieu, Seigneur, comprends pas, Seigneur, que tu as porté ton regard sur moi. Je suis un indigne. Je suis un pourri, Seigneur, quand je regarde ma vie. Et Seigneur, tu as osé sacrifier lui pour moi. Seigneur, je ne comprendrai jamais, mais tout ce que je peux te dire, c'est merci. Merci que j'étais dans ton cœur depuis toute éternité. Merci. Et quand on regarde ce qui est mort sur la croix pour nous, ce Fils qui est mort pour nous, vous pouvez voir jusqu'à quel prix, le prix que vous valez pour Dieu. De sacrifier celui qui était sans péché, de sacrifier celui qui était son Fils unique, comme notre frère nous le dit durant sa présidence, pour des pécheurs, des ennemis, des gens qui se moquaient de Dieu, des gens qui n'avaient jamais rien à cirer de lui, qui vivaient carrément tout le contraire de ce que Dieu nous demande. Et pourtant, Dieu n'a jamais, son amour pour nous n'a jamais diminué dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, quels grands yeux nous avons. Et les gens à l'extérieur ont besoin d'entendre ce message de l'Évangile. La Belgique, elle a été christianisée, mais elle n'a pas encore été évangélisée. Vous faites la différence entre les deux, hein? Tout le monde a entendu parler de Jésus ici. Mais ce n'est pas tout le monde qui a entendu parler du message, la croix. Quel Dieu merveilleux nous avons! Pourtant, vous pouvez l'avoir déjà rencontré, vous pouvez le remercier pour ce qu'il a fait pour vous et ne pas être encore animé de cet esprit de reconnaissance qui manifeste ouvertement ce qu'il a fait pour vous. Car voyez-vous, frères et sœurs, il existe une troisième chose qui sera manifeste dans votre vie si vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous allez le lui démontrer. Verset 16. Lisons encore une fois le verset 16. Et remarquez ce que va faire cet homme. Il va tomber sur sa face aux pieds de Jésus. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu faire comme les neuf autres et rester à 100%, à 100 mètres de Jésus et dire, « Désolé Jésus, je dois aller dîner, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, au revoir, à la prochaine. » Mais ce n'est pas ce que ce Samaritain va faire ici. Il va prendre la peine de revenir sur ses pas et au lieu de se limiter à dire seulement « Merci à Jésus », que fait-il quand il arrive devant lui? Il tombe sur sa face et à ses pieds, démontrant par ce geste combien il réalise que Jésus n'était pas obligé de le guérir et qu'il lui doit la vie. Il se jette à terre en lui disant, « Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée. » On n'a pas le temps ce matin de raconter, mais quand vous vous imaginez la vie qui était réservée aux lépreux, aïe, aïe, aïe. Là, j'en avais un aperçu dans Ben Hur, ceux qui ont vu le film Ben Hur. Hein? Oui, ben c'était ça la réalité. Hein? Imaginez maintenant que Jésus était allé voir ces neuf lépreux et ces neuf autres lépreux en leur disant, « N'êtes-vous pas reconnaissant pour ce que j'ai fait pour vous, vous autres? N'êtes-vous pas reconnaissant d'avoir été guéris? » Qu'est-ce que vous pensez qu'ils auraient répondu à Jésus? « Bien sûr que nous sommes contents d'avoir été guéris. » Alors, quel est donc le problème, frères et sœurs? Le problème, c'est le suivant, c'est qu'ils ne l'ont jamais dit, qu'ils n'ont jamais démontré qu'ils étaient contents. Frères et sœurs, est-ce qu'on démontre aux gens qu'on est content d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on dit ça? Malgré toutes les difficultés qu'on vit, comme notre frère a parlé tantôt, tous les malheurs qu'on vit, les maladies qu'on peut avoir, est-ce qu'on permet au diable de nous voler la joie de notre salut dans notre cœur? Et que ça nous bloque pour dire qu'on appartient à un autre monde, non? Qu'on a une autre espérance, parce qu'on a quelqu'un qui règne sur nous, qui n'est pas un roi terrestre, mais un roi céleste. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi le Samaritain est revenu et a remercié Jésus et les neuf autres ont continué leur chemin? La réponse est facile à trouver. C'est un choix qu'il a fait. Il a choisi de revenir. Frères et sœurs, on peut trouver toutes les excuses pour ne pas louer le Seigneur, pour ne pas être reconnaissant au Seigneur, mais c'est un choix qu'on fait. On fait le choix le matin de soit lire le journal, d'écouter le journal de télévision ou de lire la Bible. On fait le choix de regarder ces deux choses-là ou de louer le Seigneur. Ça prend moins de temps à louer le Seigneur qu'à regarder le programme TV le matin en se levant. Mais c'est un choix qu'on fait. On ne peut pas dire que je suis victime de mon ancienne vie. C'est un choix qu'on fait, frères et sœurs. Et il a choisi de revenir. Et la raison pour laquelle une personne est ingrate est fort simple. Ce n'est pas parce qu'elle a vécu de mauvaises expériences dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle est née sous une mauvaise étoile. Ce n'est pas parce qu'un père lui est tombé dessus quand il était tout jeune. Et ce n'est sûrement pas parce qu'elle a vécu dans une famille dysfonctionnelle. Personnellement, je suis désolé pour ceux qui ont vécu ces choses-là. Je suis vraiment désolé, mais si aujourd'hui elles sont devenues des personnes ingrates, qui n'arrêtent pas de se plaindre, c'est pour une raison. C'est simplement pour une raison, c'est parce qu'elles ont choisi d'être comme ça. Vous savez, je vous ai parlé de ma mère, je ne vais pas parler de mon père. Hein? Mon père, il me battait. La seule marque d'affection que j'ai eue de mon père, c'est qu'il me battait à coups de bâton. Parce qu'il en avait ras-le-bol de me voir fuir, sortir par les fenêtres, puis me moquer de lui, et ainsi de suite. Mais je ne me suis jamais vu comme une victime. Jamais. Jamais. Le seul qui est digne d'être nommé victime. Victime expiatoire pour nos péchés. Nous subissons tous la conséquence du péché des autres, et les autres subissent la conséquence de nos péchés. Mais si on commence à se regarder toujours comme des victimes, on ne prendra jamais le temps de s'examiner. On va toujours regarder vers les autres le mal qu'ils nous ont fait, et ça, c'est épouvantable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont énormément de difficultés à venir à Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'ils se voient comme étant des victimes et non pas comme des pécheurs. J'ai rien à me reprocher, moi, c'est les autres. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est les autres. C'est souvent la victime qui parle comme ça. Mais le pécheur, quand il entend le message de l'Évangile clair et net, il dit, qui est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce que je suis, Seigneur, pour que tu puisses me présenter l'Évangile? Nous choisissons d'être reconnaissants ou nous choisissons d'être ingrats. Dans cette histoire, 9 personnes ont choisi d'être ingrates et un seul homme a choisi d'être reconnaissant. Tous les jours, tous les matins, quand vous vous levez, vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'être reconnaissant ou choisir de continuellement critiquer ou bougonner. On dit ça, bougonner, ici? Ça va, moi, ça ressemble pas mal. Ou choisir de continuellement critiquer, bougonner pour ce que vous vivez, mais vous allez choisir de manifester une de ces deux attitudes à chaque jour de votre vie. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont incontentables. Il fait soleil, il fait trop chaud. Il pleut trop. Ces nuageux, ils ne savent plus quelle position prendre. Ils restent dans leur maison. Il y en a, vous êtes incapables de satisfaire. Tu as mal au ventre, ils ont mal ailleurs. S'il y a des gens, c'est comme ça. Mais vous savez qu'est-ce que ça cache, ça? Ce sont des victimes. Ah oui, mais toi, tu as ça, mais tu ne sais pas ce que j'ai, moi. Frères et sœurs, si le Seigneur nous avait traités en victimes, jamais il a renvoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Parce qu'il n'a pas envoyé Jésus pour sauver des victimes, il a envoyé Jésus pour sauver des pécheurs et des gens qui se reconnaissent comme tels. Et l'Église a besoin de revenir à la base et de prêcher les doctrines qui amènent au salut. Vous savez pourquoi on a de la difficulté dans nos églises aujourd'hui à voir des gens qui sont transformés? On a abandonné la doctrine de base qui garantit à tout le monde d'entrer au ciel, et c'est la nouvelle naissance. Jésus est clair. Si tu ne nais pas de nouveau, dit-il à Nicodème, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Et c'est une doctrine qu'on a mis de côté. Frères et sœurs, Actes chapitre 3, verset 19. C'est le message de l'apôtre Pierre. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pas juste pardonner, effacer. Voici l'agneau de Dieu qui efface, qui ôte le péché du monde. La repentance, elle est indispensable au salut. Et pour plaire aux hommes, on a mis la repentance de côté parce que ça pourrait blesser des gens, ça pourrait blesser des victimes. Mais Dieu veut atteindre le cœur du pécheur parce qu'il veut lui donner un cœur nouveau. Dieu ne veut pas mettre une patch, il ne veut pas mettre un sparadrap sur le cœur pour soulager une victime. Il veut faire de cette personne un être nouveau. Il veut faire une nouvelle personne qui va ressembler à Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Le seul but, je le répète à chaque fois que je viens, le seul but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pas pour rester assis dans nos chaises, c'est pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et souvent, quand on ressemble à Jésus-Christ, où ça va aller plus vite, c'est quand on passe par des épreuves, c'est quand on passe par des souffrances. Ce n'est pas quand tout va bien dans notre vie. C'est facile de dire, lever la main, dire j'ai la foi quand il y a un million d'euros dans notre compte de banque. C'est facile de dire quand on a 2 voitures, 2 maisons et tout tourne bien, qu'on est on a pleine capacité, nos moyens, de dire j'ai la foi. Mais quand le Seigneur fait avec nous ce qu'il a fait avec Job, maudit ton Dieu, dit la femme de Job. Maudit ton Dieu! Job a continué jusqu'à la fin, il a reçu une double bénédiction de la part du Seigneur. Frères et sœurs, c'est dans les épreuves. J'ai eu un cancer, c'est là, c'était... On se comprend, mon frère et moi, c'était le meilleur moment de ma vie, après ma conversion. J'ai jamais eu une relation aussi étroite avec Dieu que pendant que j'avais mon cancer. Je ne prie pas pour en avoir un autre, mais c'était un moment extraordinaire dans ma vie. Extraordinaire. Je bénis Dieu pour cela. Nous devrions non seulement manifester notre reconnaissance au Seigneur, non seulement parce que nous avons rencontré Jésus, non seulement parce que nos vies ont été transformées, que nous ne pouvons pas faire autrement que de le remercier, mais nous allons le partager aux autres. Nous allons le partager aux autres. Verset 19, regardez. Quand ce Samaritain est revenu voir Jésus pour le remercier, Jésus ne lui a pas dit de rien. Il est écrit au verset 19 qui lui a dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le verbe « sauver » que Jésus utilise ici signifie littéralement en grec « salut ». En fait, ce que Jésus a réellement dit au Samaritain ici, c'est ceci, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé et va annoncer maintenant à ceux que Dieu... Va annoncer ce message, va annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie auprès de ceux qui ne me connaissent pas encore. » Parce que voyez-vous, frères et sœurs, ce Samaritain, quand il est venu rechercher, il est revenu remercier Jésus, il n'est pas simplement revenu le remercier, il est revenu pour lui soumettre sa vie. Il est venu parce qu'il est venu lui soumettre sa vie, non seulement comme son sauveur, mais aussi comme son maître. Il dit « Seigneur, maître, Jésus, maître ». Et quand il est tombé, sa face sur sa tête, et voilà, et ce qu'il était en train de montrer à Jésus, c'est « Je te donne pas seulement ma santé, mais Seigneur Jésus, je te donne aussi mon cœur. Je ne te remercie pas seulement d'avoir guéri mon corps, je te remercie aussi d'avoir sauvé mon âme. » Et les 10 lépreux avaient été guéris, et un seul d'entre eux avait été guéri, sauvé, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez quelle est la partie triste de cette histoire? La partie triste de cette histoire, ce n'est pas que les autres, les 9 autres lépreux n'ont pas dit « merci ». Ce n'est pas là la partie triste de l'histoire. La partie triste de cette histoire, c'est qu'ils étaient passés à côté de la plus grande bénédiction qu'ils pouvaient recevoir dans leur vie. Parce que si vous avez compris le message de l'Évangile, vous savez que la plus grande maladie qui était en train de tuer ces lépreux, ce n'était pas la lèpre, mais le péché qui habitait en eux. Leur plus gros problème, ce n'était pas leur corps. Leur plus gros problème, c'était leur cœur. Et ce qui est triste ici, c'est que leur corps avait été guéri, mais pas leur cœur. Cette histoire ne se limite pas seulement à eux, elle s'adresse également à chacun de nous ce matin. La grande majorité des habitants de notre quartier se lèvent tous les jours et acceptent les bonnes grâces, les bonnes choses de Dieu, mais ils n'acceptent jamais ce que Dieu a de meilleur pour eux. Ils se lèvent tous les matins, ils profitent de la lumière du soleil, mais ils n'acceptent jamais la lumière du soleil. Ils se lèvent tous les matins, ils boivent l'eau que les entreprises du monde leur offrent, mais ils ne viennent jamais boire aux eaux du salut que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Pourquoi? Est-il possible qu'il n'y ait personne pour leur offrir cette eau à boire qui vient de Jésus-Christ, qui pourrait devenir en eux une source d'où coule la vie éternelle? Ce Samaritain a expérimenté les deux. Il a dit, « Seigneur, tu ne viens pas juste de me guérir, tu viens aussi de me sauver. Tu n'as pas simplement fait disparaître ma lèpre, tu m'as enlevé mon péché. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit de faire? « Lève-toi et montre que cette rencontre t'a marqué et va la partager aux autres. » Pourquoi Jésus lui dit cela? Je sais que cela n'est pas exprimé dans le texte, mais où pensez-vous? Je vais avoir besoin de vous, là. Où pensez-vous que ce Samaritain est allé après avoir quitté Jésus? Dès qu'il est parti, où pensez-vous qu'il est allé? Qui veut oser une réponse? Où, d'après vous, ce Samaritain est parti quand il a quitté Jésus? Il est allé? Dans sa famille. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Où peut-il avoir été ensuite? Allez, on risque. Pardon? Oui, voir ses amis. OK. Après, il est allé où? Dans son quartier. Il est allé dans les rues. Il est sûrement rentré chez lui, comme moi j'ai fait. Il est allé voir les membres de sa famille, comme moi j'ai fait. Il est allé ensuite voir ses amis, comme moi j'ai fait, pour raconter qu'il avait rencontré Jésus, ce qu'il avait fait pour moi. Moi, j'ai 6 frères et une sœur, ils m'ont tous rejeté. Mais ça ne me dérangeait pas. Ce qui était important pour moi, c'est que Jésus ne me rejette pas. Hein, le mouton noir qui se présente. J'en ai fait baver aux 6, moi, dans la maison, chez moi. Hein? Et vous savez ce qu'on m'a dit? On t'aimait mieux quand tu étais ce que tu étais avant. Fou, hein? Ouais. On t'aimait mieux, genre, on t'aimait bien mieux comme tu étais avant. Hein? On ne te reconnaît plus. J'en ai fait pleurer, moi, mes frères et ma soeur. Ouais. Il est allé voir sa famille, les membres de sa famille. Il leur a sûrement parlé de ce que Jésus avait fait. Il est allé voir ses amis. C'est moi. Je suis méconnaissable, mais c'est moi. Et il a fait le tour du quartier. Et lorsque tout ce monde a vu ce Samaritain, quelle est selon vous la première chose qu'ils ont demandé? Mais qu'est-ce donc qui t'est arrivé? Comment tu peux guérir de cette terrible maladie? Qu'as-tu fait? Que pensez-vous que ce Samaritain lui a répondu? Pensez-vous qu'il leur a dit, oh, j'ai rencontré un homme qui m'a dit d'aller voir les prêtres en chemin, je me suis aperçu que mon corps était guéri? Pardon. Oh, je pourrais vous parler de la réaction que j'ai eue quand je me suis aperçu que j'avais retrouvé l'usage de la parole. Pas du tout. Il leur a sûrement dit, laissez-moi plutôt vous raconter ce que Jésus a fait dans mon cœur. Je ne serai plus jamais le même homme, parce que je ne suis pas seulement physiquement différent, mais je suis maintenant spirituellement différent. Je vois à l'avant, je commence à voir le monde comme Dieu le voit. Je commence à voir le péché comme Dieu voit le péché. Et je commence à voir les conséquences du péché comme Dieu voit les conséquences du péché. Et je ne serai plus jamais capable de revenir en arrière. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, il parle de deux sortes de repentance, celle qui sauve et celle qui ne sauve pas. Il dit que la repentance qui sauve, on ne revient jamais en arrière. Ça, c'est celle qui mène à salut. Et la première, elle mène à la mort. C'est simplement un simple regret, touché par les émotions. On voit dans certaines églises, il faut que tu pleures pour devenir chrétien. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur, il ne parle pas de larmes. C'est le cœur. Tout est une question de cœur. Vous rappelez-vous, l'homme possédé de plusieurs démons, dans Marc, chapitre 5, verset 1 à 20. Qu'est-ce que Jésus va lui dire après qu'il ait été délivré? Et ça, frères et sœurs, là, ça, si vous avez compris ce principe-là, parce que moi, c'est celui que j'applique dans ma vie, vous n'aurez jamais besoin d'apprendre une méthode pour évangéliser. Vous n'aurez jamais besoin d'apprendre des versets qui vont vraiment taper dans le cœur des gens pour qu'ils soient sauvés. Vous faites ce que Jésus dit à ce jeune homme qui était délivré de plusieurs démons. Vous lui dites, vous faites exactement ce qu'il dit. Et frères et sœurs, vous allez voir des fruits si votre vie est juste devant le Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Retourne chez toi dans ta famille, exactement comme le Samaritain. Retourne chez toi dans ta famille et va leur raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Frères et sœurs, ça, c'est le message d'évangélisation. Ça, c'est le message que les gens ont besoin d'entendre à l'extérieur. Frères et sœurs, si notre vie est semblable à ceux des gens de l'extérieur, on est mieux de se taire. Hein? On n'a rien à leur apporter. Si on commet les mêmes péchés que les gens à l'extérieur, on n'a rien à leur dire. Dites amen à ça. C'est vrai. On n'a rien à leur dire. Je ne vous chicane pas, je ne vous dispute pas. Hein? On dit ça, chicaner, sinon. Je ne vous dispute pas. Hein? C'est québécois, ça veut dire disputer. Je ne vous dispute pas. Je ne vais pas vous condamner non plus, loin de là. Mon but à travers ça, je pense que c'est ce que le Seigneur m'a à cœur ce matin, c'est qu'on soit interpellé, qu'on puisse se remettre en question. Moi, je n'amène jamais de prédication pour vous faire du bien, hein, parce que les gens du monde sont capables de vous faire du bien, et autrement que moi, je peux vous faire du bien. Moi, quand j'amène une prédication, c'est surtout pour qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse être interpellé par le Saint-Esprit et dire, écoute, là, c'est-tu possible que je sois moins mieux, que je sois moins bon que je pensais? C'est-tu possible que je sois moins juste que je pensais? Qu'est-ce que je pourrais remettre dans ma vie ce matin? Seigneur, tu peux-tu me le dire pour que tu puisses glorifier ta gloire dans mon cœur, que tu puisses te glorifier jour après jour davantage dans ma vie? C'est ça, hein? C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est ça les frères et sœurs en Christ. Vous me regardez tous ce matin, vous avez tous des beaux visages. Il y en a qui sourient plus que d'autres, il y en a qui sont perplexes. Mais moi, je ne suis pas capable de lire dans votre cœur. Et Dieu sait ce que vous avez dans votre cœur. Et s'il y a une pierre qui est dans votre cœur, qui empêche le Seigneur de pouvoir travailler votre cœur, ce que Dieu veut, ce n'est pas vous condamner un matin, ce n'est pas vous juger, c'est de l'enlever. C'est simplement de l'enlever. Et pas de vous mettre sur un système d'épreuves pour que cette pierre elle puisse partir. Reviens à la croix. Donne-la ta pierre, il va la prendre. Il est encore capable de la prendre parce qu'il est vivant. Il est capable de l'enlever. Ouais. Je suis persuadé que pour le restant de sa vie, ce Samaritain ne s'est pas contenté de parler de la guérison de son corps. Il a parlé du guérisseur et de la guérison qu'il a opérée dans son cœur. Et partout où il allait, vous pouvez être assuré qu'il parlait toujours de Jésus. Parce que lorsque vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de partager cette bénédiction. Vous allez partager cette grâce et vous allez partager ce Dieu qui sauve à d'autres personnes. Laissez-moi vous dire pourquoi il en est ainsi. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, si vous avez une vraie relation avec lui, vous trouverez toujours une raison pour être reconnaissant. Peu importe ce que vous vivrez, vous trouverez toujours une raison d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour vous. D'un autre côté, si vous avez oublié ce que Jésus a fait pour vous, non seulement vous ne saurez pas être reconnaissant, mais vos sujets d'action de grâce se porteront sur les choses qui appartiennent à ce monde et qui sont appelées un jour à disparaître. Seigneur, merci pour la maison que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour la voiture que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour les meubles que tu m'as donnés. Mais tout ça, c'est appelé à disparaître. Dieu peut vous les enlever du jour au matin, du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous risquez de revenir sur vous-même et de dire, « Mais Seigneur, quel péché que j'ai commis? » Tu n'as pas péché aucun. Tu n'as pas commis aucun péché. Il dit, « Seigneur va dire, je suis en train de te former. Je suis en train de te former pour voir si tu es prêt à tout abandonner pour moi. » Et de par ta réaction, est-ce que tu penses que tu es prête? Frères et sœurs, quand j'ai eu mon cancer, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais prié au Seigneur pour qu'il me guérisse. Jamais. Jamais. Ma relation était tellement étroite avec lui, comment je pouvais demander qu'il me guérisse? Je trouvais même que ça aurait été égoïste. Je le voyais me porter comme un père dans ses bras, ce que mon père n'a jamais fait. Je sentais sa main qui me caressait, le corps. J'avais une paix que, cette paix que Paul parle, qui surpasse tout ce qu'un homme peut comprendre. J'en étais rendu au point où j'aurais été égoïste de lui dire, Seigneur, guéris-moi. J'étais prêt. Je savais où je m'en allais. Il n'y avait pas un péché dans ma vie qui m'aurait pu me dire, mais c'est possible qu'il pourrait te refuser. Non. Quel Dieu merveilleux on a. Ouf, heureusement qu'il est plus patient que nous. Heureusement qu'il pardonne plus facilement que nous pardonnons. Heureusement qu'il oublie plus facilement le tort que nous lui causons que nous pardonnons. Frères et sœurs, peu importe ce qui est arrivé dans vos vies, ce qui peut arriver dans vos vies, il y a une chose pour laquelle vous pouvez toujours être reconnaissant, et c'est Jésus. Jésus, Jésus. Nous pouvons toujours remercier Dieu pour nous avoir permis de rencontrer le Seigneur Jésus. Je comprends que certains d'entre vous peuvent se dire à l'instant même, et c'est possible que je pourrais dire la même chose, si j'étais dans votre situation, eh bien, pasteur, c'est facile de parler comme ça. C'est facile de parler comme ça, Seigneur, mais c'est pas toi demain qui va passer une chimiothérapie, une séance de chimiothérapie. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas toi non plus qui es en instance de divorce, comme je le suis. C'est vrai. Vous n'avez pas de difficulté à joindre les deux bouts, n'est-ce pas? Vous avez acheté de la nourriture, vous vivez assez bien. C'est vrai. C'est pas là qu'est le problème. Vous savez pourquoi j'ai pris ces trois exemples-là? Parce que c'est trois exemples par lesquels je suis passé. Je sais comment j'ai réagi. Merci, Seigneur. Je sais mieux que moi-même ce que j'ai besoin. Frères et sœurs, on vit dans une génération qui refuse de souffrir. C'est un crime de souffrir. On aime mieux se faire euthanasier que de souffrir. Sans savoir où on s'en va, on entend des gens qui disent « Ah, il est mieux. Il est mieux où il est maintenant. » C'est l'enfer qui les attend. Il faut arrêter de tomber dans le sentiment. Pourtant, frères et sœurs, peu importe ce que vous vivez, quelles que soient les choses qui peuvent sembler terribles dans votre vie, si vous avez Jésus, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Si nous avons Jésus, comment ne pouvons-nous pas être reconnaissants pour le salut qu'il nous accorde et l'espérance de la vie et de la résurrection à venir? Permettez-moi de terminer par une histoire vraie. Je vais la lire parce que je ne voudrais pas oublier certains éléments. C'est quelqu'un qui a vécu cette histoire et qui me parle beaucoup. Alors, j'aimerais vous la partager. Il y avait un homme qui s'appelait Ed et qui vivait dans l'État de la Floride aux États-Unis. Il vivait près de l'océan et chaque vendredi soir, et ce, 52 semaines par année, qu'il pleut ou qu'il fasse beau, vous pouviez regarder par votre fenêtre et de votre maison et vous pouviez voir Ed sortir de chez lui avec un seau de crevettes, remplir à bord, monter dans sa voiture et se diriger vers la plage. Arrivé sur les lieux, il descendait de sa voiture pour se rendre jusqu'à sa jetée. Vous dites ça, la jetée, ici, oui? Okay. Il arrivait à la jetée, il marchait jusqu'au bout, il restait là avec son seau de crevettes. Tout à coup, vous aperceviez dans le ciel ce qui semblait être des milliers de petits points blancs venaient se précipiter près de lui en criant et en hurlant. Ed se retrouvait littéralement encerclé par des dizaines et des dizaines de mouettes. Il mettait alors sa main dans le seau de crevettes et il commença à les lancer à ses oiseaux affamés. Si vous aviez pu vous placer juste derrière lui, vous l'auriez entendu dire à chaque fois qu'il lançait une crevette, « Merci, 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 merci. » Elle a répété ce manège pendant tous les vendredis soirs pendant 31 ans, sans jamais en manquer un seul. Lorsqu'il n'y avait plus de crevettes dans son seau, Ed revenait à la maison. Si la plupart des gens ne le voyaient pas souvent en ville pendant la semaine, tous les vendredis soirs, les gens regardaient, toujours à la même heure, regardaient, ouvraient leurs rideaux de fenêtre et ils voyaient passer Ed en voiture, en ayant la certitude qu'il se transportait son seau de crevettes avec lui. Et Ed retournait à la mer et à chaque fois, avec son seau de crevettes, les milliers de mouettes venaient et Ed lançait des crevettes. Merci. 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 Plusieurs pensaient au fond d'eux-mêmes que cet homme était un drôle de numéro et qu'il était peut-être un peu fou. Jusqu'au jour où, en 1973, Ed quitta ce monde et que son épouse leur a raconté son histoire. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler d'Eddie Rickenbacker, qui est né en 1890, qui est mort en 1973. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Ed est un héros de la Première Guerre mondiale. Il fut le pilote de chasse américain ayant obtenu le plus de victoires durant ce conflit, ayant abattu 26 avions ennemis. Il a été décoré de la médaille d'honneur du Congrès américain. Un jour, il a reçu du président Roosevelt la mission d'explorer avec 7 membres d'équipage une île éloignée du Pacifique pour photographier les positions de l'ennemi. Mais ils ne se sont jamais rendus. Leur avion est tombé en panne au-dessus du Pacifique. Ils ont tous miraculeusement survécu. Ils ont pu monter dans un canot de sauvetage qui se trouvait à l'intérieur de l'avion, dans lequel ils ont baloté pendant 24 jours sur cette mer agitée. Ils ont dû se protéger du sommet du soleil, des requins, mais la plus grande chose contre laquelle ils ont dû lutter, ce fut la faim. Au bout de 8 jours, toute leur ration était épuisée. Il ne leur restait plus de nourriture et ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un miracle, sinon ils mourraient. Ils ont alors décidé de rendre un culte à Dieu, et tous ensemble, ils ont fait cette prière. « Seigneur, si tu veux que nous vivions, tu vas faire un miracle, nous allons tous mourir. » Épuisés, ils décidèrent d'essayer de faire une sieste. Et plus tard, lorsque Eddie raconte l'histoire, il dit qu'il venait juste de pencher sa tête vers l'avant, sa casquette militaire sur son nez, lorsqu'il a senti quelque chose sur sa casquette. Qu'est-ce que vous pensez que Ed a senti sur sa casquette? Ed raconta, « Comme je restais parfaitement immobile, je savais que la vie de mon équipage et la mienne se jouaient dans les 5 prochaines secondes qui suivraient. » Il dit, « J'ai fait une courte prière à Dieu. Je lui ai dit, « Seigneur, ça ne me dérange pas que tu ne répondes plus à aucune de mes prières dans le futur, mais laisse-moi attraper cette mouette. » Et d'un geste vif comme une flèche, il attrapa la mouette avec ses mains, lui brisa le cou et lui arracha les plumes. Lui et ses compagnons mangeaient toutes les parties de cet oiseau qui pouvaient être mangées, à l'exception des intestins. Ils commencèrent ensuite à utiliser ses intestins comme appât, ce qui leur permit d'attraper des poissons. Avec les intestins de ces poissons qu'ils avaient attrapés, ils continuèrent à attraper d'autres poissons, et ainsi de suite. En utilisant cette technique de survie, ils ont pu rester en vie pendant 24 jours, jusqu'à ce qu'ils soient tous retrouvés et sauvés. Ed Rickenbacker a vécu 31 ans après cette terrible expérience dans le Pacifique. Mais il n'a jamais oublié le sacrifice de cette mouette à qui ça a coûté la vie pour les sauver. Et pendant 31 ans, tous les vendredis soirs, il emportait ce seau de crevettes à la jetée pour nourrir ses mouettes, qui, elles, ne connaissaient absolument pas la raison pour laquelle il les nourrissait. Ce que ce type bizarre faisait en donnant des crevettes aux mouettes, c'est qu'il ne faisait que manifester sa reconnaissance pour ce que le Seigneur avait fait pour lui dans le passé, en disant simplement « Merci, merci, merci d'avoir envoyé un jour cette mouette pour sauver nos vies d'une mort certaine. » Il y a 2000 ans, frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, nous sauver aussi d'une mort certaine. Il est mort sur une croix et a payé sa vie pour nos péchés. Et ce, pas seulement pour que nous puissions vivre encore quelques années sur cette terre, mais pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et pouvoir ainsi vivre pour l'éternité avec Dieu sur cette nouvelle terre qu'il créera un jour. Nous devrions prendre du temps à chaque jour pour déverser un seau rempli de gratitude vers ce Dieu qui nous a tant aimés en Jésus-Christ. Nous devrions vivre le restant de nos vies en manifestant constamment un esprit de gratitude pour ce que Dieu a accompli par amour pour nous à travers la personne de Jésus. L'apôtre Paul nous demande de rendre grâce en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments, en toutes choses. Si ce n'est pas une question de péché, on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments, en sachant que Dieu est derrière tout cela et que jamais Dieu ne permettra qu'il nous arrive quelque chose qui est au-delà de nos forces. L'apôtre Paul dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En d'autres mots, voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses, comme l'apôtre Paul nous le demande. Nous oublierons ce que nous vivons et nous rappellerons ce que Jésus a vécu pour vous. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire, et je termine avec ça. Ed a pu déverser son saut de crevettes pendant 31 ans. Je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre. Il me reste à vivre. Mais ce que Dieu demande pour ses enfants aujourd'hui, c'est de manifester une grande reconnaissance pour ce qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Et jour après jour, quand on se lève, tout au long de la journée, déverser notre seau de gratitude au Seigneur en disant, « Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Seigneur, merci pour ton salut. Seigneur, merci pour l'espérance que tu m'accordes. » Des courtes phrases, et ça va sortir. Ça va sortir, frères et sœurs. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu merveilleux. Et il vous aime tous de façon égale. Vous avez tous un appel particulier dans votre vie, mais Dieu veut vous utiliser pour se glorifier. Est-ce que vous réalisez ça? Pour se glorifier. Frères et sœurs, Dieu veut que vous deveniez, en d'autres mots, ses ambassadeurs. Vous connaissez les exigences des pays? Pour faire de quelqu'un un ambassadeur, il doit être quelqu'un au-dessus de tout reproche. Prenez un ambassadeur américain, vous êtes certain que ce gars-là, quand il vient vivre en Belgique, il va ne vous parler que des bénédictions qu'il y en a aux États-Unis. Il va tellement vous en parler qu'il va vous donner, il va vous mettre l'eau à la bouche pour que vous alliez vivre aux États-Unis. Mais c'est quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher. Parce qu'à travers lui, on doit voir ce que sont les États-Unis. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Dieu veut faire de nous des ambassadeurs, c'est ce que Paul dit. Et à travers nous, eh bien, que les gens n'aient rien à reprocher de ce qu'ils font dans leur propre vie, mais qu'ils puissent vouloir goûter finalement les prémices du royaume de Dieu à travers nous et que Dieu va se glorifier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour votre écoute. Et je n'ai pas autre chose à rajouter, voilà. Merci. Je laisse la place à mon frère.